porteurs de la gloire de Dieu. Un sujet vaste, mais tellement grand. Et moi, quand je pense à la gloire de Dieu, je deviens tout petit. C'est pour ça que je deviens un peu mou. Oui, c'est... Je me dis, Dieu est tellement grand, tellement glorieux. Et qu'est-ce que c'est finalement la gloire de Dieu? Comment on rencontre cette gloire? Comment on entre dans cette gloire? C'est tout un sujet. Porteur de la gloire de Dieu. Et alors, ce matin, c'est objectif, gloire de Dieu. Donc, tu dis à ton voisin, objectif, gloire de Dieu. Ça marche? On ne veut pas sortir d'ici. Ah, il n'y a pas de voisin. Alors, vous regardez plus loin là-bas, ici. On ne veut pas sortir d'ici sans être entré dans la gloire de Dieu. Ça marche? Alors, maintenant, tu dis à ton âme, à ton moi intérieur, tu dis objectif, gloire de Dieu. Donc, tu le dis à toi-même. Tu dis, je ne sais pas ce que c'est, mais j'y vais. Parce que la gloire de Dieu, c'est vaste, c'est très vaste. Alors, pour comprendre ce que c'est la gloire de Dieu, eh ben, il faut se tourner vers les cieux. Les cieux, comment Dieu a créé les cieux, dans toute sa gloire, là où il habite, là où il y a sa présence. La gloire de Dieu, c'est là où il y a la présence de Dieu. Et là où il y a sa présence, c'est dans sa maison, c'est là où il habite, c'est là où il vit. Et imaginez être auprès du Père, là, il y a toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire. Et qu'est-ce que tu es face à ça? Ben, tu n'es pas grand-chose. C'est pour ça que quand on pense à la gloire de Dieu, c'est difficile pour nous de l'appréhender. C'est difficile de savoir comment elle agit dans notre vie. C'est difficile même de savoir si on a déjà vécu ou goûté à toute la gloire de Dieu. Mais j'aimerais te dire que tu n'as pas goûté à tout, parce que Dieu est tellement grand, tellement puissant, tellement glorieux, on l'a chanté ce matin, que c'est énorme. Donc tu dis énorme.
Énorme.
Très énorme. Ah, ça ne se dit pas. Non, ça ne se dit pas, on arrête ça tout de suite. Alors on va lire Genèse chapitre 1, et il faut revenir au commencement pour comprendre certaines choses, et pour qu'on soit tous en phase. Et on va voir la création de l'homme et de la femme. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Donc on va revenir au verset 26. Faisons l'homme à notre image. Imaginez, Dieu est là, dans toute sa gloire, il est d'éternité en éternité, il a toujours été, et il dit on va faire quelque chose, une création qui sera à notre image. À l'image de Dieu. Impressionnant, hein? Moi ça me secoue un peu. Il y a toutes sortes de théories sur ce qu'est l'image et la ressemblance de Dieu. Mais on va essayer d'éclaircir un peu ça. Alors, l'image c'est finalement la position. Et la ressemblance, c'est la fonction de l'homme. L'image, c'est la position de l'homme dans la nature, la position de l'homme dans la création. D'accord? C'est ce qu'il est. C'est comment Dieu l'a créé. C'est comment Dieu le positionne. C'est l'autorité que Dieu lui donne. Il n'a rien décidé lui-même. Il est ce qu'il est. Adam et Ève sont ce qu'ils sont. Et ils n'ont encore rien fait qu'ils ont cette position d'être la plus belle créature de Dieu. Celle qui est à son image. Vous me suivez? Ils n'ont encore rien fait jusque-là. Ils sont tout simplement ce que Dieu a décidé qu'ils sont. Alors, ensuite, il y a la ressemblance, c'est la fonction. Je ressemble à Dieu, et dans ma ressemblance, je vais fonctionner d'une manière qui correspond à l'image que Dieu a mise en moi. Donc, cette image, c'est ma personnalité, et ma personnalité est le reflet de ce que Dieu est, lui-même. Donc en l'homme, Dieu est inscrit, sa gloire est inscrite, et en fonction de ce qu'il est, Il doit maintenant lui ressembler et agir et être et agir en fonction de ce qu'il est, d'accord? En fonction de sa personnalité, de sa nature propre. Ça roule? Et vous voyez bien que tout de suite, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine. Automatiquement, l'image et la ressemblance de Dieu sont liées à la domination. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu pour pouvoir dominer à la manière dont Dieu aurait dominé s'il était lui-même homme à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils sont totalement, Adam et Ève sont en phase avec Dieu. Ils sont exactement son miroir, son reflet. Ça va ? La personnalité de Dieu, on dit Dieu le Père, le Dieu d'amour. Dieu est aimant, rempli d'amour. Ce n'est pas une domination comme nous, on a l'habitude de voir, avec un État, avec des gens qui ont des titres, qui prennent des décisions et puis on n'a rien à faire. Non, non, c'est vraiment la domination dans le sens de responsabiliser et d'aimer les gens. Et cette domination, c'est dans cet amour sacrificiel. C'est pour ça qu'il y a eu Jésus, on parle de l'amour sacrificiel de Dieu, c'est-à-dire penser à l'autre avant moi-même. Moi, j'aimerais bien que nos autorités pensent à nous avant eux-mêmes. D'accord ? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de débats en France, mais pourquoi ceci, pourquoi cela, voilà. Mais ici, Dieu, c'est vraiment une domination parfaite. C'est une domination qui est dans l'amour. Et il donne cette autorité et il donne cette injonction à l'homme de dire « Maintenant, vous allez dominer ». Vous êtes comme moi, vous avez au fond de vous la même personnalité que moi, vous êtes mon reflet, comme si vous vous regardiez dans un miroir et vous me voyez moi. Et en plus, vous êtes à ma ressemblance, c'est-à-dire que tout ce que vous ferez sera en accord avec qui je suis et qui vous êtes. C'est quand même fort. C'est-à-dire que Adam et Ève vivaient dans toute la gloire de Dieu. Ils étaient dans son royaume. Le royaume de Dieu, c'est le domaine du roi, c'est le domaine de Dieu. C'est l'endroit où c'est glorieux, où il n'y a aucune imperfection, où le roi règne. Et l'Éden, qui a été créé par Dieu, c'est cette petite portion de terrain sur la terre où Dieu dit maintenant à Adam et Ève, ben voilà, regardez, je vous mets là, et ici vous avez toute l'autorité, vous avez tout, allez-y. Et j'aime à remarquer que finalement, dans le début, eh bien, Dieu est simple, très simple avec Adam et Ève. Il leur parle, allez-y, dominez, faites ceci, faites cela. Il n'y a aucune question de combat spirituel, de difficulté. Il n'est pas question d'un Satan qui va venir les attaquer constamment. Il leur en parle même pas. Est-ce que vous saisissez ça? C'est la domination est telle qu'on n'a même pas besoin de parler de ça. C'est tellement petit. On va y revenir. Alors le royaume de Dieu, c'est quoi ? Romains 14, verset 17. C'est un royaume de justice, de paix et de joie. Uniquement cela. Adam et Ève représentent Dieu sur terre. Alors j'aimerais qu'on souligne le fait que très vite, Dieu va dire, maintenant Adam et Ève, vous allez nommer les animaux de la terre. Et souvent, on pense qu'Adam et Ève, ils ont juste à dire girafe, dinosaure, c'est pas ça. Hein. Faut tout de suite remettre les choses dans leur contexte. Ils n'ont pas dit girafe. Hein. C'est pas ce qu'ils ont fait. Hein. En fait, le fait de nommer dans la parole de Dieu est très important. Parce qu'en fait, un nom, ça te donne le cadre dans lequel tu peux évoluer. Donner un nom à quelque chose, c'est lui donner sa nature propre. Nommer quelque chose, c'est lui donner son domaine d'autorité. L'homme et la femme ont été nommés par Dieu. L'autorité leur a été donnée, le gouvernement leur a donné. Et il a dit, maintenant vous, je vais collaborer avec vous, comme vous êtes à mon image et à ma ressemblance, à vous de nommer le reste. Alors on ne sait pas s'ils ont juste reconnu ce que Dieu avait déjà fait, ou si c'est eux-mêmes qui ont donné un cadre à toute la création. On ne sait pas ça, ce n'est pas écrit. Mais tout ce qu'on sait, c'est que Dieu participe, il collabore. Et c'est pour ça qu'on dit toujours, on collabore avec Dieu, on travaille avec lui et pas pour lui. Donc, ce n'est pas juste dinosaures, T-Rex, on ne sait pas dans quel temps ils sont arrivés, d'accord ? Mais c'est vraiment la question de nommer les choses, d'avoir une autorité pleine sur les choses. Je dis que tu seras ça. Point. Vous voyez la force de ce qui se passe. Ils participent. Ils sont dans la gloire et en même temps, ils sont participants. Là, ça donne la sphère d'autorité. Alors, ensuite, la chose suivante, on ne va pas tout lire parce qu'on a beaucoup de versets qui suivent, mais vous voyez dans le verset plus loin, tu peux remettre Pierre. Donc c'est la première chose, ressemblance, image liée à la domination. Et ensuite, il y a encore quelque chose qui leur est demandé. Tu peux aller au suivant. Suivant. Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, Satan est déjà sur terre. La chute a déjà eu lieu. Qu'est-ce qui s'est passé avec Satan? Je remets les choses dans leur contexte pour que ce soit clair pour nous après. Mais Satan est déjà tombé. Satan, c'était Lucifer, l'ange de lumière, un des trois archanges qui était directement au service de Dieu, avec Gabriel et Michel. L'ange de lumière, tellement beau, vous voyez dans Proverbes tout ce qui est écrit sur lui, il était plein de sagesse, il était le plus beau. Et qu'est-ce qui s'est passé? On sait tous quelle est la cause de sa chute. C'est l'orgueil. Il s'est dit, j'aimerais être maintenant le sujet des louanges. J'aimerais qu'on m'adore moi et qu'on me loue moi. Et automatiquement, vous comprendrez que, eh bien, il a été déchu. Et ce qu'il faut comprendre pour nous, c'est que l'orgueil nous sépare de la gloire de Dieu. C'est automatique. L'orgueil te sépare de la gloire de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Et il est déchu. Et donc Satan est là, il est sur la terre, et puis il y a l'Éden, et il va venir dans l'Éden, et la seule chose qu'il peut faire, c'est parler à Adam et Ève, parce que Satan n'a plus aucune autorité. Il n'y a rien du tout, lui. À qui est l'autorité? À l'homme et à la femme. C'est à eux de gouverner. Et ce qu'il leur est demandé là, c'est remplissez la terre. Mais avant de la remplir, il faut que vous puissiez vous multiplier. Parce que là, comme vous êtes à deux, c'est compliqué. Vous avez toute autorité, mais vous êtes quand même limité. Vous voyez, vous êtes limité. Ne devenez pas orgueilleux, à deux, vous ne pourrez pas tout faire. Il faut que vous puissiez remplir la terre. Et il faut que maintenant, la terre soit remplie de génération en génération et que petit à petit, la terre soit remplie de ma gloire. C'est ça le projet initial de Dieu, c'est de remplir la terre de sa gloire. Ça roule? Vous me suivez toujours? Et là, Satan, la seule chose qu'il peut faire, c'est venir parler. Alors, il vient et il se met devant nos deux amis et il commence à les tenter. Et qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez la suite. Eh bien, il tombe. Et là, qu'est-ce qui se passe? On va accélérer. Eh bien, l'homme, ce qu'il est en train de faire, c'est que Satan n'a aucune autorité vis-à-vis de Dieu. Il ne peut rien lui demander, voilà, c'est tout. Eh bien, il vient chercher l'autorité à qui elle a été donnée? Eh bien, aux hommes, à l'homme et à la femme. Et par la tentation, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé l'autorité déléguée de Dieu. On l'a donnée à qui? À Satan. Et là, vous passez d'un moment où vous êtes à l'image de Dieu, vous êtes à la ressemblance de Dieu, et c'est ce qu'on appelle la chute. Vous tombez. Vous perdez votre ressemblance à Dieu. Vous êtes incapable de gouverner comme Dieu aurait gouverné. Parce que maintenant, vous êtes esclave de qui? Du prince de ce monde. Et c'est comme ça que Satan devient le prince de ce monde. Et c'est comme ça qu'il a eu autorité pour pouvoir maintenant égorger, détruire et tuer Jean 10-10. Ça va? C'est comme ça qu'il a eu l'autorité. Nous lui avons cédé. On a fait une alliance avec lui. On a perdu cette ressemblance à Dieu. On n'est plus capable. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? On connaît la suite. Jésus qui est venu. Et Jésus a dit une chose qui est très importante. Jésus est venu sauver ceux qui étaient perdus. Alors souvent, on pense que c'est ceux qui étaient perdus, ceux qui étaient dans le monde. Oui, c'est une bonne interprétation. Mais l'interprétation première, c'est Jésus est venu sauver ceux qui étaient perdus. Et on a appelé Jésus le nouvel Adam. le nouvel Adam, celui qui allait être capable de faire ce que Adam et Ève ont été incapables de faire. Celui qui allait marcher en toute autorité sur cette terre, dont le péché, aucun péché ne pouvait l'attirer. Et ce qui est impressionnant avec Jésus, c'est que Jésus était pleinement Dieu, mais pleinement homme. Et vous savez, moi, ça ne m'intéresse pas de lire la Bible si c'est pour lire Jésus, Jésus le grand Dieu qui fait tout, et puis c'est normal, c'est Dieu. Mais Jésus a fait tous ses miracles, et il a manifesté la gloire de son Père en tant qu'homme. Et c'est ça qui est intéressant pour nous. Parce que quand on lit que Jésus a manifesté sa gloire, la gloire de son Père en tant qu'homme, et que la Bible nous dit qu'on doit chercher à être comme qui ? Comme Christ ? Ben je me dis, c'est possible pour moi. Alors comment est-ce que c'est possible ? On va lire beaucoup de versets, et j'espère que vous allez me suivre. Parce que là, il suffit de lire pour comprendre. Pas besoin de parler beaucoup. Alors, le but maintenant, c'est que Jésus est venu chercher ce qui était perdu. Jésus est venu remettre en place le royaume de Dieu sur cette terre. Il a dit maintenant vous allez prier que ce qui en soit comme au ciel sur la terre. Il revient faire des choses. Et puis on va voir ce qui se passe pour nous pouvoir à nouveau entrer dans le royaume de Dieu. Parce que par le péché on a été coupé, on a été séparé de la présence de Dieu. Si tu es séparé de la présence de Dieu, automatiquement tu es séparé de sa gloire et on n'est plus dans le royaume de Dieu. On est dans ce monde où règne qui ? Le prince des ténèbres. Alors qu'est-ce qu'il faut pour nous rentrer à nouveau dans le royaume de Dieu ? Alors Jean 3, versets 3 à 6 est très très clair. Et c'est Jésus, c'est clair sans être clair. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Donc là, on revient, Pierre, s'il te plaît, il n'est pas écrit en vérité, je te le dis, à moins de venir au phare, eh bien, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Il n'est pas écrit en vérité, je te le dis, à moins de te convertir au monde évangélique, tu entreras dans le royaume de Dieu. Il n'est pas écrit d'avoir telle religion. On peut se convertir à toutes sortes de choses. Mais ce n'est pas la conversion qui te fait entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui te fait entrer dans le royaume de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Et on l'a entendu ce matin, naître de nouveau, passer de la mort à la vie. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je suis passé de la mort à la vie ? Parce que si je ne suis pas passé de la mort à la vie, il y a encore temps. Alors la première chose pour retourner dans le royaume de Dieu, c'est naître de nouveau. On lit la suite. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ? Jésus lui répondit, en vérité, je le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, la Bible nous dit que nous étions voilés. Le péché nous a séparés de la gloire de Dieu, il y a un voile devant nos yeux. Ce voile fait que, eh bien, on entrevoit, c'est comme si vous mettiez vos mains comme ça, et vous voyez une sorte de lumière, mais vous n'arrivez pas, vous n'avez pas accès. Et que pour pouvoir entrer à nouveau dans ce royaume, il faut quoi ? Il faut naître d'esprit. C'est spirituel, c'est une nouvelle naissance spirituelle. Ce n'est pas religieux, ce n'est pas suivre des rites, c'est spirituel. Ensuite, la deuxième chose, Marc, chapitre 10, versets 14 à 15. Voyant cela, Jésus fut indigné et leur dit « Laissez les petits enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Petit enfant veut dire simplicité, simplicité de cœur, authenticité, vérité. Si tu es simple avec Dieu, si tu acceptes par la foi simplement le royaume de... La Bible nous dit que le royaume de Dieu s'approche de toi et toi, tu n'as plus qu'à rentrer. C'est quand même fort. C'est Dieu qui s'approche de toi par le moyen de la foi. La Bible nous dit aussi que tu ne peux pas te sauver toi-même. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas te sauver toi-même. La seule chose que tu peux faire, c'est quoi ? C'est avoir la foi. Et même la foi, c'est un don de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la grâce. Jésus est venu pour nous libérer. Ça roule ? C'est lui qui suscite la foi en nous. C'est lui qui nous attire. C'est lui qui nous fait ce don de foi et c'est lui qui nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu, à nous d'avoir le cœur d'enfant. De balayer un petit peu tout ce qui est intellectuel, de tout ce qui est religieux, de tout ce qui est émotionnel et d'accepter simplement. Vous me suivez toujours ? 1 Corinthiens 18, 20, on va voir qu'est-ce que le royaume de Dieu. Je vous... Je l'avais donné celui-là. Ah, pardon. 1 Corinthiens. Ah oui, je t'ai dit une bêtise, papapam. Laisse tomber. Donc c'est 1 Corinthiens. C'est 1 Corinthiens, j'ai oublié le chapitre. Le royaume de Dieu ne consiste pas en quoi ? En parole, mais en puissance. Ça roule ? Et à un moment donné, dans les Corinthiens, plus loin, Paul, il va reparler aux Corinthiens, ça partait en vrille chez les Corinthiens, et puis l'orgueil arrivait, et puis il y a Paul qui dira comme ça, j'ai pas les mots justes, mais il dit, je vais venir vous voir et voir un petit peu si votre parole, c'est la puissance ou si c'est de la rigolade. Parce que si c'est pas la puissance, c'est pas le royaume de Dieu. Je vous simplifie le truc. Mais vous voyez, ce qui est important, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste, que la gloire de Dieu se manifeste. Si la gloire de Dieu ne se manifeste pas, ce n'est pas le royaume de Dieu. On va voir quels sont les obstacles au royaume de Dieu maintenant. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 et 12. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu ? Les injustes. Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni l'idolâtrie, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom de Seigneur Jésus. Et par l'Esprit de notre Dieu. On a dit que le royaume de Dieu consiste en justice, justice, en paix et en joie. Et la Bible nous dit que Jésus s'est fait notre justice. Alors qu'on était condamnés, alors que c'était plus possible pour nous, Jésus, dans son plan, il est venu sur terre, il s'est fait homme, pleinement homme, il a donné sa vie, et on nous dit qu'il a porté nos péchés. Alors souvent, ouais, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il s'est rendu, il s'est fait notre justice. La justice de Dieu est tombée sur l'homme. L'homme qui est pécheur a été gracié totalement. C'est lui qui est notre justice, c'est Jésus. Et on va voir quelque chose de très important pour nous ce matin. Jean, chapitre 12, versets 42 à 43. Je t'avais pas donné celui-là ? Désolé, j'en ai tellement. Jean 12, versets 42 à 43. Je vois pas beaucoup de Bibles qui s'ouvrent. On est trop habitués ici aux écrans. Cependant, alors, c'est un moment donné où Jésus parle, Jésus a fait des miracles, vous relirez le contexte. Et puis, cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en qui ? En Jésus. Beaucoup crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils ne le déclaraient pas, de crainte d'être exclus de la synagogue. En effet, ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Il y a une leçon importante à comprendre ici. Peut-être que dans ta vie, tu vas être amené à voir la gloire de Dieu. Tu vas la voir. Tu vas même croire en lui. Mais en fait, il y a deux réactions primaires chez nous. C'est l'amour ou la peur. Et la peur sera plus forte. Peur d'être exclu. Peur de ne pas être comme les autres. Et qu'est-ce que tu vas faire ? Eh bien, tu vas décider d'avoir le titre, le statut parmi les hommes, plutôt que goûter à la gloire de Dieu qui, elle, fait que les gens te jugeront peut-être. Et c'est ce qui se passe là. Et tout ça, c'est de l'orgueil. À nouveau, c'est l'orgueil. L'orgueil qui sépare certains alors qu'ils ont vu, alors qu'ils ont cru d'être séparés de la gloire de Dieu. Parce que l'orgueil s'immisce, le regard des autres. Comment les gens vont me voir ? Comment les gens vont me considérer ? En effet, ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Est-ce qu'on aime plus la gloire des hommes, notre position sur cette terre, que la gloire de Dieu? Est-ce que vraiment on soupire après la gloire de Dieu? Pas juste une vie où j'ai accepté Jésus et ça va un peu mieux dans ma vie. Mais Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je ne comprends pas toute ta gloire. Elle est tellement grande. Ta présence est insondable. Mais je veux goûter à cette gloire encore, Seigneur. Je veux venir humblement, tout petit, et je veux toucher ton cœur. Et tout ce qui est là, eh ben, ça m'importe peu. Et Jésus a dit, vous savez, vous connaissez ce qu'il a dit, il a dit que celui qui veut être mon disciple, que celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Alors, comprenez-moi bien ce matin. Jésus a donné sa vie pour nous. Il s'est fait justice, c'est-à-dire que devant Dieu, par la foi en Jésus-Christ, on est reconnu saint devant Dieu. Lorsqu'on croit réellement de tout notre cœur, c'est lui notre justice. Et Jésus maintenant, il dit, tu veux me suivre? Tu veux être mon disciple? Il ne facilite pas le terrain. Il ne dit pas, fais une petite louange et puis c'est bon. Viens deux, trois fois. Non, il ne dit pas ça. Il dit, renonce à toi-même. Dans un autre verset, il dira, abandonne tout ce que tu es. Même ta famille, quand il dit ça, c'est dans le sens, sois pas attaché à ça plus qu'à moi. Parce que si vraiment tu veux me suivre, je veux tout ton cœur. Alors renonce à tout ce que tu es. Renonce à tes désirs, à tes sentiments. Parce que ma gloire, elle est tellement grande et je veux que tu y rentres. Mais d'abord, j'ai besoin de voir un pas de foi de ta part. Et ça va passer par une action. Renoncer. Et il dit, porte ta croix. Alors, beaucoup de chrétiens pensent que porter la croix, c'est tous les jours galérer avec la même chose. Porter la croix, c'est pas ça. Porte ta croix. Je renonce à moi-même. Je renonce à moi-même, Seigneur. C'est une décision de moi-même. Je renonce à mes propres désirs parce que j'ai entrevu ta gloire. T'as semé la foi en moi. Je désire te suivre. Je connais pas tout. Mais je veux voir plus. Je veux voir plus. C'est un pas de ta volonté. Jésus, lui, est déjà mort, il a déjà donné sa vie, il a déjà dressé la table, il t'a déjà légué des promesses, il t'a déjà donné une destinée. Mais je veux dire, entre avoir une promesse et vivre la promesse, il y a un monde. Entre avoir un crédit sur quelque chose et avoir la chose même, il y a un monde. Et là, il dit, il est question de ta volonté. Renonce à toi-même. Porte ta croix. Ça veut dire que chaque jour, affronte-toi toi-même. Affronte tes problèmes. Affronte qui tu es. Regarde-toi en face. Viens regarder le miroir chaque matin. Et est-ce que tu me vois, moi, Jésus, ou toi encore? C'est ça, porte ta croix. Si je me fais des idées et j'ai ma façon de vivre la chrétienté et la vie avec Jésus et que je vois quelques défauts, voyez les vieux miroirs qui sont un peu rouillés, un peu cassés, c'est à la mode dans certaines décos, hein, mais on ne se voit pas bien dedans. Et ben vous voyez pas bien, vous voyez des taches, et vous dites, mais ça va, moi je suis sauvé, Jésus est en moi. Ben, tu n'as rien compris, parce que Jésus veut que tu sois à son image. Et la Bible, elle nous dit, je veux que tu sois à mon image, transformée de gloire en gloire. Je veux que ça change, je veux que tu ailles plus loin, on l'a entendu ce matin. Il faut que la médiocrité, ça s'en aille chez toi. Il faut qu'il y ait plus de moi en toi, il faut que je grandisse, que tu diminues. Et c'est pas un combat contre toi-même où tous les matins t'es là, mais Seigneur, je suis comme ça, et puis j'ai péché, et puis c'est Dieu. Mais c'est, Seigneur, je reconnais aujourd'hui que je suis pas ta ressemblance. Et je le dis. Je le prononce. Mais Seigneur, je veux que tu vives plus en moi. Et c'est un désir de ma volonté. Et là, Jésus, qui lui a tout donné à la croix, il tend sa main et dit, je vais t'accompagner. Parce que là, je vois qu'il y a l'envie, je vois qu'il y a le désir. Je vois qu'il y a le feu en toi. Vous voyez? Ça vous parle ou pas? Moi, ce matin, j'étais peut-être un peu mou, mais j'étais bouleversé par les chants. Saint est le Seigneur! Saint est le Seigneur! Moi, je me souviens ici, une fois, j'étais dans la louange à la place de mon père. Et puis, j'étais dans la louange tellement de temps, je rentrais dans l'adoration. Je criais pas, je levais pas les mains, j'étais juste dans une adoration intérieure. Et la présence de Dieu est tombée. J'ai eu une part de la gloire de Dieu. Et puis, je résistais pas, il y avait une telle sainteté. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai ouvert mes yeux et j'ai dit, si moi je vis ça, tout le monde est à terre.
Puis j'ai regardé, Fred était normal, tout allait bien, Julien ça allait, vous voyez, rien n'avait changé. Mais j'étais en train de goûter une part de la gloire de Dieu et ça a attisé ma soif. Ça a attisé un feu nouveau en moi et j'ai dit, Seigneur, je veux goûter davantage à ta gloire, à ta présence, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Vous me suivez? Et Jésus est venu sur cette terre et aujourd'hui, on n'est plus comme Adam et Ève avec toute l'autorité. Mais il dit, je veux que vous rentiez à nouveau dans l'image, vous retrouviez cette image de moi en vous, que vous retrouviez cette ressemblance, que vous puissiez commencer premièrement à prendre autorité sur vos propres vies, que ma gloire se manifeste avant de penser aux voisins, machin. La gloire dans ma vie, Seigneur, la sainteté dans ma vie, la transformation dans mon cœur. La vie nouvelle, la nouvelle naissance qui prend toute toute sa réalité en moi, dans mes réalités. Et à chaque fois que vous allez lire les versets, je vous invite, regardez tous les versets qu'il y a sur la gloire de Dieu dans la vie, sont liés avec les choses charnelles, avec le manger et le boire, avec la possession sur cette terre, avec les biens matériels, avec le matérialisme, toutes ces choses-là, c'est lié. C'est-à-dire que la gloire de Dieu est liée aux choses très concrètes. Si tu penses que la gloire de Dieu, c'est juste « Ah, shababa, shababa », ça n'a rien à voir. C'est dans ma vie, la gloire de Dieu se manifeste. Et ma vie change. Et après, je peux rentrer dans la présence de Dieu et goûter une adoration nouvelle. Ça, c'est le résultat. Lorsque tu vois les malades guéris, c'est une manifestation de la gloire de Dieu. C'est la présence de Dieu qui agit à un moment donné. Mais dans ta chambre, il peut agir aussi. Lorsque tu le pries, lorsque tu es là le matin, là, le dimanche, Seigneur, je viens avec une soif. Je viens avec un désir aller plus en profondeur. Vous me suivez? Mais Jésus, il a dit renonce. Abandonne ce qui te coûte un peu trop, parce que moi, j'ai abandonné toute ma vie pour toi. J'ai abandonné, Jésus est descendu de la gloire. C'était Jésus est Dieu, Dieu, Jésus est Dieu. Il était avec Dieu au commencement du monde. Vous avez bien vu, faisons l'homme à notre ressemblance, le pluriel qui a employé. Jésus était là et il est descendu de là, il s'est mis dans l'homme, il a abandonné la gloire de son Père. Et la Bible nous dit, on va prendre un verset encore, Jean 8, verset 54, Jésus leur répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. » Jésus n'était pas là pour se glorifier. Il faisait pas des miracles à gogo en disant « Regardez, c'est moi le sauveur, c'est moi qui vais vous libérer. Regardez à moi, regardez à moi, regardez à moi. » Jésus il disait « Mais je te guéris, dis-le à personne. » Il faisait ce qui était juste, il était homme. Parce qu'il voulait pas que l'homme Jésus ait la gloire. Il voulait que le Père spirituel qui est dans les cieux ait la gloire. Vous me suivez? Et qu'est-ce qui se passe? Tu l'as là? Ok, c'est mon Père qui me rend gloire, lui que vous présentez comme votre Dieu. Il parle à nouveau religieux, vous dites qu'il est Dieu, mais moi, mon Père, c'est à lui que je rends la gloire. Et nous, dans l'Église, en tant qu'enfants de Dieu, si on essaie d'évoluer, d'avoir une stature juste pour que la gloire nous revienne, c'est l'orgueil. L'orgueil te séparera de la gloire de Dieu. Mais si avec humilité, on dit « Seigneur, je veux être serviteur, je veux être humble, je veux goûter à ta gloire parce que j'ai vraiment envie d'aider Romain. » Vous voyez ce que je dis? Je prends un exemple. Romain, il a besoin d'une part supplémentaire, je vais l'aider. Ce n'est pas pour qu'un jour Romain dise « Alexis, c'est le meilleur ». C'est pour que lui, il participe parce qu'il faut qu'on se multiplie. Si toi, tu es porteur de la gloire de Dieu, si moi, je suis porteur de la gloire de Dieu dans mon travail, et bien là où je passe, il y a la présence de Dieu. Je reprends autorité. Là où je suis, il y a la présence de Dieu. Là où je parle, il y a la présence de Dieu. Quand je mets un pied au boulot, c'est le domaine du roi maintenant. Même si on est contre moi, j'invite le royaume de Dieu dans mon travail. Et on a du mal, nous les chrétiens. Il y a parfois une différence entre tout ce qu'on vit là. Vous me suivez? On veut rentrer dans la sphère d'autorité que Dieu nous donne. On veut trouver l'appel que Dieu nous donne. On veut trouver notre identité. Si tu veux, l'image de Dieu, c'est retrouver son identité en Christ. Seigneur, je suis juste. Je suis enfant de Dieu. Et maintenant, je veux manifester ta gloire. Pas pour moi, pour que moi je sois glorifié, mais pour que ton règne vienne là où je suis. Mais posez-vous la question, est-ce que votre premier intérêt et que le règne de Dieu vienne là où vous êtes. Moi, tous les jours, ce n'est pas mon premier intérêt. Moi, combien de jours je me lève et j'ai tellement de choses en tête que je ne pense même pas au règne de Dieu. Je vous le dis.
Et si on s'examine nous-mêmes, est-ce qu'on pense toujours au règne de Dieu ou pas? Je ne vous dis pas de tout abandonner, je vous dis juste que dans votre réalité, dans ce que tu vis au quotidien, est-ce que le règne de Dieu est la priorité? Est-ce que son nom est la priorité? Moi, j'ai eu 2 semaines de boulot intense, des 13, 14 heures par jour. Je ne mangeais même pas le midi. Et je me battais avec moi-même. Je disais, Seigneur, il est où ton règne dans tout ça? Faut que je me donne. Mais il est où ton règne? Et puis, je bossais. Je dis, Seigneur, il faut qu'il se passe quelque chose. Et puis, le conducteur de travaux, il vient et dit, parce qu'ils m'ont mis dans un brin pas possible, il me dit, il m'envoie un texto, il dit, Alexis, merci pour ton investissement. Parce que je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Et grâce à toi, on a pu boucler le chantier. J'aurais pu dire, j'arrête tout, ça ne va pas, les conditions ne sont pas bonnes. Et puis faire mon syndicaliste. Et puis, je n'ai pas fait ça. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la force. Je me suis retrouvé au camion avec lui. Et il m'a dit, Alexis, comment tu fais pour vivre comme ça? J'ai commencé à lui prêcher l'évangile. Il était touché, un homme qui avait une soif. Et ensuite, ils sont tous venus me voir, des entreprises de 50 bonhommes. « Eh, c'est vrai que tu es prêt de Jéhovah ?» Je dis « Non. » Je dis « Je ne suis pas prêt de Jéhovah, on en reparlera un autre jour parce que là, ça va être long à t'expliquer. » Mais vous voyez le témoignage dans une réalité où je pensais qu'il n'y avait pas la gloire de Dieu. Il n'y avait pas le miraculeux comme je l'attendais. Il n'y avait pas les guérisons avec puissance comme je les voulais. Ah, il n'y avait pas ça, il y avait juste l'huile de coude. Mais la gloire de Dieu, elle était là. Parce que si j'ai dû faire ça juste pour toucher un seul... Et je ne vais pas le lâcher maintenant. Parce que je dis, je n'ai pas perdu mon temps, je ne me suis pas fatigué. Si cet homme veut être touché, Dieu l'attire. Vous comprenez? Je veux manifester la gloire de Dieu là où je suis. Je veux rentrer dans sa présence, peu importe les circonstances. Les circonstances, elles ne vont pas changer. Elles ne bougeront pas. C'est à toi de t'adapter à tes circonstances. À inviter, à susciter ta foi, à dire, Seigneur, je veux, avec cette petite graine que j'ai, je suis peut-être épuisé, j'ai peut-être des difficultés. Mais la Bible nous dit que juste un petit peu de foi déplace les montagnes. Je vais les déplacer dans ma vie. Parce que tu es avec moi, pas pour ma propre gloire, pas pour qu'on dise « Oh, qu'il est beau, qu'il est merveilleux », mais pour qu'on dise « Seigneur, tu es vraiment avec lui ». Qu'on puisse se dire, quand on témoigne, comment Dieu était avec toi, c'est merveilleux. Il y a eu une gloire dans ta vie cette semaine. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas l'orgueil, mais cette humilité de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de plus de toi. » 2 Corinthiens 4, versets 6 à 7. « Car Dieu a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » C'est très clair. Je suis utile pour Dieu. Je travaille avec lui, pas pour moi. Mais posons-nous cette question 5 minutes. Qu'est-ce que j'ai fait cette année? Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine pour la gloire de Dieu? Qu'est-ce que j'ai pu accomplir où vraiment Dieu m'a poussé? Et là, c'était la gloire de Dieu. Parce que c'est notre objectif. Notre objectif, c'est saisir Christ. Dire « Christ, t'es avec moi ». Et aujourd'hui, on n'a plus à se battre contre la chair et le sang, mais contre toutes les puissances des ténèbres. Pour Dieu, Satan, c'est rien du tout. Et nous, parfois, on lui donne beaucoup trop d'importance dans nos situations. « Ah, je suis attaqué. Je suis ébranlé. » Et c'est nos façons de parler, mais on lui donne l'importance. Ce qu'on fait, c'est que notre peur de l'ennemi... lui donne du crédit. Et c'est comme ça qu'il vient après, qu'il nous a, il nous arrache à la gloire de Dieu. Mais quand tu prends la position, la Bible nous dit qu'on est héritier, co-héritier de Christ. Christ est dans la gloire maintenant. On est héritier avec lui de cette gloire. Quand tu es avec lui et que tu regardes ça de haut, et Paul dira toutes ces petites afflictions que vous vivez. Il ne parle même pas de persécution, ces afflictions. Et nous, souvent, c'est « je suis persécuté ». Oh là là! Alors on a nos réalités, mais tout ça, c'est des petites afflictions pour Dieu. Et il dit, même dans tes afflictions, je vais manifester ma gloire. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Lazare, il a parlé à Marie, crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'on est là pour croire ce matin? Josine, viens ici partager un petit peu ce que tu as reçu pendant la louange. C'était vraiment dans la lignée de ce que j'ai partagé, donc je voulais qu'elle le dise plus tard.
En fait, pendant la louange, le Seigneur me montrait l'image de... En fait, quand il a parlé au figuier, qu'il a maudit le figuier. Et en fait, le Seigneur disait que des fois, nous, en fait, on est comme ce figuier qui ne porte pas du fruit, en fait. Et il disait que, en fait, le fait de ne pas porter du fruit, c'est le fait de ne pas rester connecté, en fait, à lui, de s'éloigner. Et pour donner du fruit, il fallait aller à la source. Et le Seigneur me disait aussi qu'en fait, on devait vraiment utiliser l'autorité de la puissance de la parole. Et ça, c'est très important. Et je pense que ça rejoint vraiment ce que Alexis a dit pendant son prêche. Amen.
Amen. On termine avec un verset, Matthieu 3, 11. Jean-Baptiste qui parle. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, Jésus, est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Avec ce Saint-Esprit, ce feu, objectif gloire. Le thème, c'était porteur de la gloire de Dieu. Mais on peut porter beaucoup de choses. On peut porter nos afflictions, on peut porter notre détresse, on peut porter notre maladie, on peut porter énormément de choses. Et même Jésus, il va dire aux pharisiens, arrêtez d'enseigner comme vous enseignez, vous donnez des fardeaux trop lourds à porter. On porte beaucoup de fardeaux parfois. Et si tu portes trop de fardeaux, à un moment donné, tu ne peux pas porter la gloire de Dieu. Parce que tu es attiré vers ça. Alors ce matin, on va prier. Et on va dire, Seigneur, objectif gloire cette semaine. Objectif gloire cette semaine. Peu importe les circonstances, objectif gloire. Je ne veux pas être desséché, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur.